Rebrassage. 1. Pour Edidine, ni lui ni la dame ne semblaient plus se traîner ni même marcher sur les derniers milles de plage. C'était plutôt comme s'ils y volaient. Roland n'inspirait toujours à l'évidence ni affection ni confiance à Odetta Holmes, mais elle se rendait compte à quel point son état était désespéré et réagissait en conséquence. Maintenant, au lieu de pousser une masse inerte d'acier et de caoutchouc à laquelle un corps s'était trouvé attaché, Eddie avait presque l'impression de pousser un véhicule sur coussin d'air. « Va-t'en avec elle. Avant, j'avais à veiller sur toi, et c'était important. Maintenant, je ne ferai que vous ralentir. » Il s'aperçut que le pistolero était bien près d'avoir raison. Eddie poussait la chaise, Odetta aidait les roues. Eddie avait l'un des revolvers du pistolero passé dans la ceinture de son jean. « Tu te souviens quand je t'ai dit de rester sur tes gardes et que tu ne l'as pas fait ?»« Oui, je te le répète, reste sur tes gardes à tout moment. Si son autre personnalité reprend le dessus, ne perds pas une seconde, assomme-la. Et si je la tue ? Ce sera la fin. Mais qu'elle te tue et ce sera aussi la fin. » Et si elle réapparaît, elle essaiera. Je te garantis qu'elle essaiera. Eddie l'avait quitté à contre-cœur. Pas seulement à cause du cri de chat sauvage entendu dans la nuit, même s'il y pensait sans arrêt. Simplement parce que Roland était devenu sa seule prise sur ce monde auquel ni lui ni Odetta n'appartenaient. Il ne s'en rendait pas moins compte que le pistolero avait raison. « Tu veux qu'on fasse une pause ? » demanda-t-il à Odetta. Il reste un peu à manger. Pas encore. La fatigue néanmoins était nette dans sa voix. Bientôt. Comme tu veux. Mais arrête au moins de pousser sur les roues. T'es trop faible. Ton estomac. D'accord. Elle se tourna, lui offrit son visage ruisselant de sueur, éclairé d'un sourire qui à la fois le faisait fondre et le régénérait. Il aurait accepté de mourir pour un tel sourire. Et pensait même y être prêt si les circonstances l'exigeaient. Bien sûr, il espérait ne jamais voir ces circonstances se présenter, mais n'avait aucune illusion. Le temps était devenu crucial à en hurler. Elle croisa les mains dans son giron et il continua de pousser. Derrière eux, sur la grève, le sillage du fauteuil était à peine visible, le sol devenu progressivement plus ferme, s'étant aussi jonché d'épaves susceptibles de provoquer un accident. Un accident qu'ils ne pourraient éviter à la vitesse où ils allaient, et dans lequel Odetta risquait d'être gravement blessée. Un accident qui, tout aussi gravement, risquait d'endommager le fauteuil. Grave pour eux, et plus encore pour le pistolero, presque à coup sûr voué à une mort solitaire en ce cas. Et si Roland mourait, il serait à jamais piégé dans ce monde. Avec Roland, trop malade et trop affaibli pour marcher, Eddie s'était retrouvé conforté à la nudité d'un fait. Et ils étaient trois ici, dont deux infirmes. Quel espoir, donc ? Comment s'en tirer ? Le fauteuil. Le fauteuil était cet espoir, le seul espoir, et rien qu'un espoir. Alors, à la grâce de Dieu. 2. Le pistolero avait repris conscience peu après qu'Eddie l'eût traîné à l'ombre d'un rocher. Sur son teint gris terreux se détachaient les marques brûlantes de la fièvre. Sa poitrine se soulevait et retombait à un rythme accéléré. Un long gant de résille rouge lui recouvrait le bras droit de son réseau vénéneux. « Donne-lui à manger, dit-il, ou plutôt croassa-t-il à Eddie. Tu t'occupes pas de moi, ça va aller. Tu lui apportes à manger. Elle ne refusera plus, je crois. » Qu'elle reprenne les forces, tu vas en avoir besoin. » Et s'il ne faisait que semblant d'être, Roland eut un geste d'impatience. « Elle ne fait semblant de rien, si ce n'est dans le secret de son corps. Tu le sais aussi bien que moi. Ça te crève les yeux si tu la regardes. Tu lui donnes à manger pour l'amour de ton père, et pendant qu'elle mange, tu reviens me voir. Dépêche-toi. Chaque minute compte à présent. Chaque seconde. » Eddie se leva. Le pistolero le retint. Maladie ou pas, cette main crispée autour de son poignet gardait une force étonnante. « Et tu ne dis rien sur l'autre. Pas un mot. Quoi qu'elle te dise, quoi qu'elle t'explique, tu ne la contredis pas.
Pourquoi ?
J'en sais rien. Mais il ne faut pas, ça je le sais. Maintenant fais ce que je te dis et ne perds plus de temps.
Il avait retrouvé Odetta contemplant la mer avec dans le regard une expression rêveuse et légèrement surprise. Quand il lui avait tendu les restes de homard de la veille, elle avait souri.
« J'en prendrais si j'osais, » lui dit-elle. « Mais tu sais comment ça se passe. »
Non, il ne savait pas, n'avait pas la moindre idée de ce dont elle parlait et ne put que hausser les épaules et insister.
« Et c'est quand même, Odetta, il faut que tu manges. On va devoir faire vite et cela va réclamer toute notre énergie. »
Elle eut un petit rire et lui toucha la main. Il sentit comme une décharge électrique passer de son corps à elle au sien.
Oui, c'était bien elle, Odette. Pas plus que Roland, il ne pouvait en douter.
« Je t'aime, Eddie. Tu as fait de tels efforts, montré tant de patience. »
Lui aussi ? Elle se tourna vers le rocher contre lequel Roland, adossé, observait la scène.
« Mais ce n'est pas le genre d'homme facile à aimer. »«
Ouais, j'en sais quelque chose. » »«
Bon, je veux bien refaire un essai. »«
Pour toi ?» Elle sourit. Et c'était effectivement pour elle que bougeait le monde. Il le sentit, à cause d'elle. Et il pensa,
« Pitié, mon Dieu !» Ça n'a jamais été à ce point. Alors pitié, ne me la reprenez pas. »
Elle prit les morceaux qu'il lui tendait, fronça le nez, petite grimace, triste et pitoyable, puis leva de nouveau les yeux vers Eddie.
« Je dois ?»« Un coup pour voir. C'est que je n'ai plus jamais remangé de crustacés. »«
Pardon ?»«
Je croyais t'avoir raconté. »
« Tu l'as peut-être fait, » dit-il, puis il rit, le conseil de Roland soudain lui revenant à l'esprit. Ne rien lui laisser soupçonner de la présence de l'autre. Il y en a eu un soir au dîner. J'avais 10 ou 11 ans. J'ai eu horreur du goût, horreur de la texture, comme des balles de caoutchouc sous la dent, et j'ai tout vomi plus tard. Je n'en ai plus jamais remangé.
Enfin, elle soupira.
Un coup pour voir, comme tu dis. Elle porta un morceau à sa bouche comme un gosse une cuillère de sirop qu'il déteste, mâcha d'abord avec lenteur, puis plus vite, puis avala. Elle prit un autre morceau. Mâcha, avala. Un troisième n'en fit qu'une bouchée. Maintenant, à peine Eddie arrivait-il à suivre le mouvement de sa main.
« Waouh ! Ralenti ! Ça ne doit pas être la même espèce de homard ?»
« Voilà, bien sûr !»
Elle posa sur Eddie un regard rayonnant.
« On a avancé sur cette plage, et l'espèce a changé. Je n'y suis plus allergique, apparemment. Ça n'a même plus mauvais goût comme avant. Et pourtant, je faisais des efforts pour ne pas vomir. N'est-ce pas que j'en ai fait ?»«
Ça, oui !»
Il avait l'impression d'entendre sa voix comme une émission lointaine à la radio. Elle est persuadée d'avoir essayé de manger, jour après jour, et de n'avoir rien pu garder, pensa-t-il. C'est l'explication qu'elle donne à sa faiblesse.
Seigneur,
pour sûr que tu as fait des efforts.
Et ce goût !
Ou du moins, est-ce de cette manière qu'il interpréta son « eou » qu'elle prononçait la bouche pleine ?
Délicieux !
Elle rit, trille cristallin. « Adorable. Et ça va rester ? Je vais me nourrir, je vais reprendre des forces. Je le sais, je le sens. »«
Ne passe quand même pas d'un extrême à l'autre, » lui conseilla-t-il en lui tendant une des autres.
« Ton estomac n'a plus l'habitude. Toutes ces fois où tu as... »
Il déglutit et il y eut dans sa gorge un clic audible, du moins pour lui.
« Où tu as vomi. »«
Oui, oui. »
Il faut que j'aille dire un mot à Roland.
D'accord. Mais il allait partir quand elle le retint de nouveau par la main.
Merci, Eddie. Merci d'être si patient.
Et tu le remercies lui aussi.
Elle marqua une pause sérieuse.
Tu le remercies et tu ne lui dis pas qu'il me fait peur.
Je m'en garderai, avait répondu Eddie avant de retourner voir le pistolero.
3.
Même quand elle ne poussait pas sur les roues, Odetta l'aidait. Elle dirigeait leur course avec la prescience d'une femme rompue à l'art de conduire un fauteuil roulant dans un monde qui allait encore mettre bien des années à accepter l'existence d'handicapés comme elle.
« Gauche !» criait-elle.
Et le jeune homme infléchissait leur trajectoire sur la gauche, dépassant une pointe rocheuse qui, tel un chicot érodé, affleurait à la surface grise et grenue de la grève. Seul, il aurait peut-être vu l'obstacle, comme il aurait pu ne pas le voir.
« Droite !»
Et il basculait le fauteuil sur la droite, manquant de peu l'un des rares pièges à sable qu'il rencontrait encore. Ils finirent par s'arrêter. Eddie s'allongea, le souffle court et rauque.
« Dors !» lui dit-elle.
« Dors une heure, je te réveillerai. »
Eddie la regarda.
« Si je te le dis, je le ferai. Je sais très bien dans quel état est ton ami. »
C'est pas vraiment mon ami, et j'ai parfaitement conscience que le temps nous est compté.
Je n'irai pas te laisser dormir plus d'une heure pour quelques commisérations malvenues, et je sais très bien lire l'heure au soleil.
Tu ne lui feras aucun bien en t'exténuant, toi aussi.
Je me trompe ?
Non,
reconnut-il, mais il pensait. Tu peux pas comprendre. Si je m'endors et que Delta Walker a fait surface...
« Alors dors, » dit-elle,
et comme Eddie était trop épuisé, trop amoureux aussi, pour faire autrement que s'en remettre à elle, il s'endormit. Et elle le réveilla une heure plus tard, comme prévu, et c'était toujours Odetta. Et ils se remirent en route, et de nouveau, elle l'aidait, ses bras comme des pistons. Ils filèrent sur cette plage qui tirait à sa fin, vers cette porte qu'Eddie ne cessait de chercher des yeux, et qu'il continuait de ne pas voir.
4.
Quand il avait quitté Odetta, bien engagé dans son premier repas depuis des jours et des jours, pour retourner auprès du pistolero, Eddie avait trouvé ce dernier un peu mieux.
« Approche-toi !» lui avait dit Rowland.
Eddie s'était accroupi à côté du pistolero.
« Laisse-moi l'outre qui n'est qu'à moitié pleine. » Ça me suffira. Tu vas emmener Odetta jusqu'à la porte. Et si tu ne trouves pas de porte, tu la trouveras. Les deux premières étaient là, la troisième ne fera pas exception. Si tu l'atteins ce soir avant le coucher du soleil, attends la nuit et abats deux homards. Il va falloir que tu lui laisses à manger et que tu te débrouilles pour qu'elle soit le plus à l'abri possible. « Si vous n'y êtes pas ce soir, abat une triple ration de gibier. »« Tiens !»
Il lui tendit l'un des pistolets. Eddie prit l'arme avec respect, surpris comme auparavant par son poids.
« Je croyais qu'il ne nous restait que des cartouches foireuses. »« Sans doute est-ce le cas ?» Mais j'ai chargé ce revolver avec celle qui me semblait avoir le moins pris l'eau. Les trois qui étaient au-dessus de la boucle de chaque ceinturon. Il y en aura peut-être une pour accepter de partir. Deux, si tu as de la chance. Mais ne les gaspille pas pour nos copains à pince.
Ses yeux soumirent Eddie à un bref examen.
Il se peut qu'il y ait autre chose par là-bas.
Toi aussi t'as entendu ?
Si tu parles de ce qui miaulait dans les collines, la réponse est oui. Mais c'est non si tu penses à un type aux yeux en boule de loto du genre de celui que tu es en train d'imiter. J'ai entendu une sorte de chat sauvage dans les halliers, dont la voix devait être 4 fois plus grosse que le corps. C'est tout. Rien dont tu ne puisses sans doute venir à bout avec un simple bâton, mais c'est plutôt elle qui m'inquiète. Si son autre personnalité réapparaît, il te faudra éventuellement...
Je ne la tuerai pas, si c'est ce que tu veux dire.
Il te faudra éventuellement lui mettre du plomb dans l'aile. Compris ?
Non sans répugnance, Eddie acquiesça. De toute façon, ces putains de cartouches allaient sans doute faire long feu, alors pourquoi se casser la tête à l'avance ?
Quand vous aurez atteint la porte, tu l'y laisses. Tu veilles à ce qu'elle soit le plus en sécurité possible, et tu reviens me chercher avec le fauteuil.
Et le revolver ?
Un tel éclair embrasa les yeux du pistolero qu'Eddie rejeta brusquement la tête en arrière, comme si Roland venait de lui braquer un lance-flamme sur la figure. « Mon Dieu, je rêve ! Lui laisser une arme chargée alors que l'autre, à tout instant, risque de refaire surface. Tu es complètement givré ou quoi ?»«
Et les cartouches ?»«
Rien à foutre des cartouches !» hurla le pistolero. Et une saute de vent porta son cri jusqu'à Odetta qui tourna la tête et le regarda un long moment avant de se remettre à contempler la mer. « Tu ne lui laisses ce revolver sous aucun prétexte !»
Eddie baissa le ton pour éviter une nouvelle indiscrétion du vent. « Et si quelque chose descend des collines pendant que je suis sur le chemin du retour ? Une sorte de char, quatre fois plus gros que sa voix, au lieu du contraire ? Quelque chose dont il n'est pas question de venir à bout avec un bâton.
Tu lui laisses un tas de pierres à portée de main.
Des pierres, Seigneur.
T'es vraiment le dernier des salauds. Je réfléchis, moi, rétorqua le pistolero. Ce qui ne semble pas être ton cas. Je t'ai donné mon arme pour que durant la première partie du trajet qui te reste à faire, tu puisses la protéger contre cette sorte de danger dont tu parles. Ça te plairait que je reprenne le pistolet ? Parce que ça pourrait te donner l'occasion de mourir pour elle, et que c'est peut-être ça qui te plairait. Très romantique. Mais alors, au lieu que ce soit juste elle, c'est nous trois qui y passerions.
C'est d'une logique impeccable. Tu n'en restes pas moins le dernier des salauds.
Bon, tu pars ou tu restes, mais tu arrêtes de me traiter de tous les noms.
Tu as oublié quelque chose, fit Eddie furieux.
Quoi ?
De me dire de grandir. C'est toujours ce que finissait par me lâcher Henry. Grandis un peu, gamin !
Le pistolero sourit. Un sourire, là, étrangement beau.
Je crois que c'est déjà fait. Tu es grand maintenant.
Alors, tu pars ou tu restes ?
J'y vais. Qu'est-ce que tu vas manger ? Elle a dévoré tous les restes.
Le dernier des salauds trouvera bien un moyen. Ça fait des années que le dernier des salauds en trouve.
Eddie détourna les yeux. Je suis navré de t'avoir appelé comme ça, Roland. Mais cette journée, il éclata d'un rire suraigu, a été un vrai calvaire.
Roland sourit de nouveau. Oui, tu peux le dire.
5. Ils firent ce jour-là leur meilleur temps de tout le voyage, mais il n'y avait toujours aucune porte en vue quand le soleil commença de dérouler sa voie d'or en travers de l'océan. Odetta eut beau lui assurer qu'elle se sentait parfaitement capable de poursuivre encore une demi-heure, il décida d'en rester là pour la journée. Il la sortit du fauteuil et la transporta jusqu'en un endroit où le sol était assez lisse, l'y déposa, puis retourna prendre les coussins du siège et du dossier pour l'installer confortablement.
« Seigneur, soupira-t-elle, c'est si bon de pouvoir s'étirer. » Pourtant, son front s'assombrit. Je n'arrête pas de penser à cet homme, à Roland, qui est tout seul là-bas, et ça me gâche tout le plaisir. Qui est, s'est dit ? Qu'est-il ? Puis, pratiquement comme si ça venait de lui revenir, et pourquoi passe-t-il son temps à crier ?
Ça doit être dans sa nature. Répondit le jeune homme avant de s'éloigner aussitôt en quête de pierres utilisables. Roland ne haussait pour ainsi dire jamais la voix. La réflexion d'Odetta pouvait reposer en partie sur l'éclat de ce matin.
Rien à foutre des cartouches.
Et pour le reste, ça semblait relever d'un faux souvenir et d'un temps où elle croyait avoir été elle-même.
Il suivit les consignes de Roland et tua trois homards monstruosités, si concentré sur la tâche de broyer la tête de la dernière qu'il fut bien près d'être le gibier d'une quatrième. Elle s'était approchée sur sa droite, et quand il vit ses pinces se refermer sur l'emplacement occupé une seconde auparavant par son pied et par sa jambe, il ne put s'empêcher de penser aux doigts manquants du pistolero. Il fit cuire ses proies sur un feu de bois sec. L'empiètement croissant des collines et leur végétation de moins en moins clairsemée facilitaient la recherche d'un combustible efficace. C'était déjà ça, cependant que les dernières lueurs du jour abandonnaient le ciel occidental.
« Regarde, Eddie !» s'écria-t-elle.
Il suivit la direction du doigt qu'elle levait et vit une étoile isolée scintillant sur le sein de la nuit.
« N'est-ce pas magnifique ?»«
Si ?» Et soudain, sans le moindre motif, les yeux d'Eddie se remplirent de larmes. Où donc au juste avait-il passé sa putain de vie ? Où l'avait-il passé ? À quoi l'avait-il employé ? Qui avait-il eu à ses côtés ? Et pourquoi se sentait-il soudain si lugubre, si fondamentalement abusé par l'existence ?
Le visage d'Odetta, renversé vers le ciel, était d'une beauté phénoménale, irréfutable sous cette lumière, mais d'une beauté dont la jeune femme n'avait pas conscience, elle qui n'avait Dieu que pour l'étoile et accompagnait ses regards émerveillés d'un rire très doux. « Brillante étoile dans le ciel noir, » dit-elle. Puis elle s'interrompit, le regarda.
« Tu connais ?»«
Oui, » fit-il, gardant les yeux rivés au sol.
Sa voix restait assez claire, mais s'il levait la tête, elle allait voir qu'il pleurait.
« Alors aide-moi, mais il faut que tu regardes. »«
D'accord. »
Il essuya ses larmes d'un revers de main et regarda l'étoile avec elle. Brillante étoile, elle le regarda de nouveau et il se joignit à elle, dans le ciel noir. La main d'Odetta se tendit, tâtonnante, et il la saisit. Deux mains, l'une d'un délicieux brun clair chocolat au lait, l'autre de la blancheur tout aussi délicieuse d'une gorge de colombe.
« Première étoile que je vois ce soir, » firent-ils à l'unisson, « garçon et fille pour le moment, pas encore homme et femme comme il le serait tout à l'heure quand il allait faire nuit noire et qu'elle allait l'appeler, lui demander s'il dormait, qu'il allait répondre non et qu'elle lui demanderait s'il voulait bien la prendre dans ses bras parce qu'elle avait froid. » Un vœu je fais sous le ciel noir. Ils se regardèrent, et il lui vit les joues baignées de larmes. Les siennes lui remontèrent aussi aux yeux, et il les laissa se répandre sans rien faire pour les cacher. Il n'en éprouva nulle honte, mais un soulagement indicible. Ils se sourirent. Exauce le vœu que je fais ce soir, dit Eddie qui pensa. Toi pour toujours.
Exauce le vœu que je fais ce soir, fit-elle en écho, pensant, si je dois mourir dans cet endroit étrange, que ce ne soit pas trop dur et que ce bon jeune homme soit à mes côtés. Je suis navrée d'avoir pleuré, dit-elle en s'essuyant les yeux. Ce n'est pas mon habitude, mais cette journée a été un vrai calvaire, acheva-t-il à sa place.
Oui, et tu as besoin de manger, Eddie.
Toi aussi. J'espère que ça ne me rendra pas de nouveau malade.
Il lui sourit.
Je ne crois pas.
6. Plus tard, sous le lent menuet des galaxies insolites, ils s'abandonnèrent l'un à l'autre, partageant le sentiment de n'avoir jamais vécu l'acte d'amour avec une telle douceur, une telle plénitude.
7. Ils furent en route avant l'aube, filant à la même allure que la veille, et vers 9 heures, Eddie se prit à regretter de n'avoir pas demandé à Roland ce qu'il faudrait faire s'il parvenait au mur de colline sans aucune porte en vue. La question semblait avoir son importance car ce point allait bientôt être atteint. Les collines ne cessaient de se rapprocher, non plus parallèles au bord de mer, mais coupant à l'oblique en travers de la grève pour le rejoindre. La plage même n'en était plus vraiment une. Le sol était ferme, désormais, parfaitement lisse aussi. Quelque chose, le ruissellement, supposait Eddie, voire les averses pendant une éventuelle saison des pluies, il n'avait pas plu depuis qu'il était dans ce monde, pas une goutte. Le ciel s'était couvert 2 ou 3 fois, mais les nuages avaient toujours fini par se dissiper, avaient emporté la plupart des roches affleurantes. À 9h30, Odetta cria.
« Arrête, Eddie. Arrête-toi !»
Il obtempéra si brutalement qu'elle dut se retenir au bras du fauteuil pour ne pas basculer. En un clin d'œil, Eddie fut devant elle. « Excuse-moi.
Ça va ?»«
Oui, très bien. » Il s'aperçut qu'il avait pris l'excitation d'Odetta pour de l'angoisse. Elle avait le doigt pointé droit devant eux.
« Là-bas, n'y a-t-il pas quelque chose ?»
Il mit sa main en visière, mais ne vit rien. Plissa les yeux et, l'espace d'un instant, crut. Non, sans doute n'était-ce qu'un mirage, le chatoiement de l'air au-dessus du sol surchauffé.
« Y a rien là-bas, » dit-il,
et il sourit. « Sinon, une projection de ton souhait, peut-être ?»«
Moi, je suis pratiquement sûr de distinguer quelque chose. »
Elle tourna vers Eddie un visage souriant et tout excité. Comme une forme verticale, tout au bout de la plage, ou presque. Il scruta de nouveau les lointains, plissa les yeux si fort qu'ils s'emplirent de larmes. Encore une fois, il eut la fugitive impression de voir ce qu'elle lui montrait. « Tu as effectivement vu quelque chose, » pensa-t-il, et il sourit. « Tu as vu une projection de son souhait. »«
Peut-être, » dit-il,
non parce qu'il y croyait, mais parce qu'elle y croyait, elle.
« Allons-y !»
Il regagna sa place derrière le fauteuil et s'accorda un moment pour se masser les reins, là où une douleur sourde avait fait son nid. Odetta se retourna.
« Qu'est-ce que tu attends ?»«
Tu es certaine d'avoir bien vu ?»«
Oui. »«
Alors allons-y !»
Et il recommença de pousser. 8. Une demi-heure plus tard, il dut se rendre à l'évidence. « Seigneur, se dit-il, elle a d'aussi bons yeux que Roland. Meilleur, peut-être. » Ni l'un ni l'autre n'avaient envie de s'arrêter, mais il leur fallait manger. Ils prirent un repas rapide et se mirent en route. La marée montait et Eddie jetait sur sa droite, à l'ouest, des regards remplis d'une inquiétude croissante. Il continuait d'avancer largement au-dessus de la guirlande de végétation marine marquant la laisse des hautes eaux, mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'au moment où ils atteindraient la porte, ils se retrouveraient dans un angle désagréablement étroit entre d'un côté l'océan, de l'autre l'oblique des collines. Et il avait à présent une vision claire de ces dernières. Elles n'avaient rien d'engageant. Chaos de roches cloutées d'arbustes bas qui déroulaient leurs racines jusqu'au sol et s'y agrippaient, poignes noueuses, sinistres serres et de buissons d'épines. Des collines pas vraiment escarpées, mais trop pour un fauteuil roulant. Il pouvait être en mesure de la porter sur un bout de pente, peut-être s'y verrait-il contraint, mais l'idée de la laisser là-haut ne l'enchantait guère. Pour la première fois depuis longtemps, il entendait à nouveau des insectes, un peu comme des criquets, mais plus haut perchés, sans rythme, rien qu'un « cri » continu, comme celui d'une ligne à haute tension. Il voyait aussi apparaître d'autres oiseaux que des mouettes, des gros parfois, décrivant de vastes cercles au-dessus des terres sur la voilure de leurs ailes raidies. « Des faucons ?» pensa-t-il. De temps à autre, il les voyait plier leurs ailes et plonger comme des pierres. Chasser. Chasser quoi ?
des petits animaux, sans doute. Mais il avait toujours en mémoire ce miaulement dans la nuit. En milieu d'après-midi, la troisième porte se dessina nettement. Comme les deux autres, il s'agissait d'une impossibilité qui n'en était pas moins là, incontestablement.
« Étonnant !» entendit-il Odette murmurer.
« Tout à fait étonnant !» Elle se dressait à l'emplacement exact qu'il avait prévu, dans l'extrême pointe de cet angle marquant le terme de toute progression aisée vers le nord, juste au-dessus de la laisse de haute mer, et à moins de 10 mètres de l'endroit où les collines s'arrachaient au sol, telle une main de géant velu tapissée de broussailles vert-de-gris en guise de poils. La marée fut haute alors que le soleil défaillait vers l'océan. Il pouvait être dans les 4 heures de la vie d'Odette, et il la croyait puisqu'elle lui avait affirmé savoir lire l'heure au soleil, et qu'il l'aimait. Quand ils atteignirent la porte.
9. Ils ne firent que la regarder, Odette dans son fauteuil, les mains dans son giron, Eddie debout à ses côtés, les pieds presque léchés par les vagues. Si, d'une certaine manière, ils la regardaient comme ils avaient la veille regardé l'étoile, avec ce regard que les enfants portent sur les choses, ils la regardaient aussi différemment. Les deux enfants de la joie qui avaient fait un vœu devant la première étoile du soir, cet effet solennel, cerné par le mystère. Peut-être encore enfants, mais posant les yeux sur l'inéluctable matérialisation d'une chose qui n'avait jusqu'alors existé pour eux que dans les contes de fées. Deux mots étaient inscrits sur la porte.
« Qu'est-ce que ça veut dire ?» finit par demander Odette.
« Je n'en sais rien, » répondit-il, même si ces mots l'avaient glacé de désespoir, même si la nuit d'une éclipse avait un instant visité son cœur.
« Vraiment ? » fit-elle, et ses yeux attendirent la réponse.
« Non, je... » Il déglutit. « Non. » Elle le regarda encore un moment, puis...
« Pousse-moi de l'autre côté, s'il te plaît. J'aimerais bien voir comment c'est par derrière. Je sais que tu es pressé de retourner le chercher, mais... Peux-tu encore faire ça pour moi ?»
Et comment qu'il pouvait ? Ils s'ébranlèrent, contournant la porte par le haut.
« Stop !» s'écria-t-elle. « Tu as vu ?»«
Quoi ?»«
Recule, puis repars en regardant la porte. »
Il obéit, et cette fois, au lieu de concentrer son attention sur un éventuel obstacle en travers de leur route, il fit comme elle disait. Alors qu'ils amorçaient leur tournant, il vit le panneau rétrécir en perspective. En découvrit les gonds qui ne semblaient s'ancrer dans rien, puis n'en vit plus que l'épaisseur. Puis plus rien. Il aurait dû y avoir, barrant verticalement le paysage, 8 voire 10 centimètres de bois massif. L'extraordinaire épaisseur de la porte n'avait pas manqué de le frapper, mais son regard ne se heurtait à aucun obstacle. La porte avait disparu. Son ombre demeurait, mais la porte avait disparu. Il fit 2 pas en arrière de manière à être juste en deçà d'une droite fictive tracée dans le prolongement de la porte et l'épaisseur de celle-ci réapparut.
« Tu la vois ? » s'enquit-il d'une voix blanche.
« Oui, elle est de nouveau là. »
Il repartit vers le nord, avança d'une 30aine de centimètres. La porte était toujours là. De 15, toujours là. Encore 5, toujours là. 2 de plus, envolé.
« Seigneur, murmura-t-il, Seigneur Dieu.
« Tu crois pouvoir l'ouvrir ?» demanda Odette.
« Ou moi ?» Il se pencha, main tendue, la referma autour du bouton de porte, cette porte sur laquelle 2 mots s'inscrivaient.
Il essaya de le tourner dans le sens habituel, puis dans l'autre sens. Le bouton ne bougea pas d'un pouce.
« Bon, »
dit-elle sereine et résignée. C'est pour lui. Je pense qu'on s'en doutait l'un comme l'autre. Va le chercher. Vas-y, tout de suite.
Il faut d'abord que je t'installe.
Ça ira comme ça.
Non, t'es trop près de la mer. Si je te laisse ici, les homards vont sortir au coucher du soleil et tu leur serviras de...
Le feulement d'un félin, très haut dans les collines, l'interrompit comme un couteau tranchant un fin cordon. Cela venait de très haut dans les collines, loin encore, mais plus près que l'avant-veille.
Odetta baissa les yeux sur le revolver passé dans la ceinture d'Eddie, ne s'y attarda qu'un instant, remonta, posa son regard sur le visage du jeune homme qui se sentit le rouge aux joues.
« Il ne tient pas à ce que je l'ai, c'est ça ?» fit-elle doucement.
« Il t'a dit de ne pas me le donner.
Pour une raison ou une autre, il ne veut pas.
« De toute façon, les cartouches ont pris l'eau, » dit-il sans conviction. « Elle ne partirait sans doute pas. »«
Je comprends. Porte-moi un peu plus haut sur la pente, Eddie. Tu crois que tu pourras ?»«
J'imagine dans quel état est ton dos. »
Andrew appelle ça la crampe du fauteuil. Mais inutile d'aller très loin, juste à l'abri des homards.
Je doute que quoi que ce soit de vivant se risque près d'eux.
Elle a probablement raison pour la marée haute, pensa Eddie.
Mais qu'en sera-t-il après quand elle descendra?
Laisse-moi à manger et des pierres, dit-elle.
Et cet écho inconscient des paroles du pistolero déclencha une nouvelle bouffée de chaleur chez le jeune homme. Il se sentit jusqu'à la racine des cheveux, pareil aux parois de briques d'un four à pain. Elle le regarda, eut un petit sourire doux, et fit non de la tête comme s'il avait exprimé tout haut sa pensée.
C'est pas le moment de se lancer dans une discussion. J'ai bien vu dans quel état il est. Il n'est pas question de le faire attendre. Tu vas me monter un peu plus haut, me laisser de la nourriture, puis tu reprendras le fauteuil et tu t'en iras.
10. Il l'installa au mieux et aussi vite qu'il put, puis sortit le revolver de sa ceinture et le lui tendit en le tenant par le canon. Elle refusa.
Il serait en colère contre nous deux. Contre toi pour me l'avoir donné, contre moi pour l'avoir accepté.
Connerie ! S'égosilla Eddie. Qu'est-ce qui a bien pu te mettre ça en tête ?
J'en suis certaine.
Elle n'en démordrait pas.
Bon, supposons que ce soit vrai. Je dis bien supposons. Si tu ne le prends pas, c'est moi qui vais me mettre en colère contre toi.
Range-le. Je n'aime pas les armes. Je ne sais même pas m'en servir. Si quoi que ce soit s'approchait de moi dans le noir, la première chose que je ferais serait de m'oublier, la deuxième de pointer ce truc dans la mauvaise direction et de me tirer dessus.
Elle s'interrompit, regarda Eddie d'un air grave.
Et ce n'est pas tout, autant que tu le saches. Je ne veux rien toucher qui lui appartienne. Rien. C'est sans doute personnel, mais... tout ce qui l'entoure me semble avoir ce que maman appelait le vaudou. J'aime avoir en moi une femme moderne, mais je ne tiens pas à être en possession d'un objet vaudou quand tu seras parti et que ce paysage de ténèbres va se refermer sur moi.
Le regard d'Eddie alla de larmes à Odetta, restant dubitatif.
« Range-le !» répéta-t-elle, sévère comme une institutrice.
Il éclata de rire et obéit.
« Pourquoi ris-tu ? » ?
« Parce qu'en disant ça, tu m'as fait penser à Mademoiselle Attaway. C'était ma maîtresse au CM1. »
Elle eut encore son doux sourire, sans détacher ses yeux si lumineux de ceux d'Eddie.
Puis elle chantonna « Doucement, très doucement, s'en vient le soir. »
Sa voix mourut sur les dernières syllabes. Et ils portèrent un même regard sur le ciel occidental, mais l'étoile de la veille restait invisible, même si leurs ombres commençaient à s'étirer.
Tu es sûr qu'il ne te manque rien, Odette ?
N'importe quoi pour repousser l'instant du départ. Ça lui passerait une fois qu'il serait en route, mais pour l'heure, il semblait avoir un urgent besoin de trouver prétexte à s'attarder.
Si, que tu m'embrasses, à moins que tu n'y voies quelque inconvénient. »
Il n'en voyait pas, et son baiser s'éternisa. Puis, quand leurs lèvres se séparèrent, elle lui prit le poignet, plongea ses yeux dans les siens.
« Je n'avais jamais fait l'amour avec un blanc avant la nuit dernière. Je ne sais pas si ça a, oui ou non, de l'importance pour toi, ni même si ça en a pour moi, mais j'ai pensé que tu devrais le savoir. »
Il réfléchit.
« Pour moi, en tout cas, ça n'en a pas. La nuit, tu sais, tous les chats sont gris. Je t'aime, Odette. »
Elle plaça sa main sur la sienne.
« Tu es un jeune homme adorable, et il se peut que moi aussi je t'aime, quoiqu'il soit encore trop tôt pour que nous sachions l'un et l'autre. »
À cet instant, comme pour lui donner la réplique, une des créatures félines qui hantait ce que le pistolet roux avait appelé les alliés donna de la voix. Elle semblait toujours à 5 ou 10 kilomètres de distance, mais c'était quand même 5 ou 10 kilomètres plus près que la dernière fois, et ça donnait l'impression d'être gros. Alors qu'il tournait la tête dans cette direction, Eddie sentit les cheveux follets de sa nuque qui tentaient de se hérisser sur l'arrière de son crâne, tentaient sans vraiment y parvenir.
« Désolé, Létif, » pensa-t-il bêtement. « Je crois que vous êtes un peu trop long pour ça. »
Le miaulement s'enfla. Ce fit cri torturé, ressemblant à la plainte d'un animal luttant contre les affres d'une mort horrible, susceptible en fait de ne correspondre à rien de plus tragique qu'un accouplement réussi. Il dura un bon moment, culmina dans une stridence presque insoutenable, puis commença de se résorber, glissant dans des registres de plus en plus graves jusqu'à cesser et se fondre dans le ululement constant du vent. Ils attendirent un retour qui ne vint pas, mais la décision d'Eddie était prise. Il tira de nouveau le revolver de sa ceinture pour le tendre à Odette.
« Prends-le et ne discute pas. Si tu as besoin de t'en servir, il peut très bien te jouer un tour de cochon, mais prends-le quand même. »
« Tu tiens vraiment à ce qu'on se dispute ?»«
Oh, trouve tous les arguments que tu veux, ça ne changera rien. »
Après avoir étudié les yeux tirant sur le noisette du jeune homme, Odetta esquissa un sourire là.
Pas de discussion, donc.
Elle prit l'arme.
« Mais je t'en prie, fais vite. »«
Tu crois que je vais traîner ?» Un dernier baiser, rapide cette fois, et il faillit lui dire d'être prudente.
« Mais sérieusement, les mecs, qu'entendait-on par prudence dans une pareille situation ?»
Dans l'ombre qui s'épaississait, les homarstruosités n'étaient pas encore sorties des vagues, mais n'allaient plus tarder à honorer leur rendez-vous nocturne. Il redescendit jusqu'à la porte, et son regard se posa une fois de plus sur les mots qui étaient inscrits. Le même frisson le traversa. C'étaient des mots terriblement justes. Oui, d'une rare vérité. Il chercha ensuite Odetta sur la pente, resta un instant sans la voir, puis surprit un mouvement, la tache brun clair de la main qu'elle agitait pour lui dire au revoir. Il agita la sienne en réponse, fit pivoter le fauteuil et au pas de course commença de le pousser tout en le basculant sur l'arrière pour maintenir les roues avant, plus petites et plus fragiles, hors du contact avec le sol et ses obstacles potentiels. Il courut cap au sud, retournant sur ses traces, et pendant la première demi-heure, son ombre l'accompagna. Ombre impossible d'un géant décharné qui, collé à la semelle de ses tennis, s'étirait vers l'est sur de longs mètres. Puis le soleil sombra dans les flots et l'ombre disparut. Les vagues échouèrent un premier arrivage d'homarstruosité. Il s'écoula encore une dizaine de minutes avant qu'il ne leva les yeux pour découvrir la sereine brillance de leur étoile du soir sur le velours bleu nuit du ciel.
Doucement, très doucement, s'en vient le soir. Faites qu'il ne lui arrive rien.
Les douleurs s'insinuaient déjà dans ses jambes et son souffle était trop brûlant, trop oppressant dans ses poumons, alors qu'il venait seulement d'amorcer son retour à vide et qu'il lui restait un troisième voyage à faire avec le pistolero comme passager. Il se doutait que Roland allait peser nettement plus lourd qu'Odette, savait qu'il aurait dû ménager ses forces et n'en courait pas moins toujours plus vite. Faites qu'il ne lui arrive rien, c'est là mon vœu. Faites que rien n'arrive à ma bien-aimée. » Et comme pour faire planer un sinistre présage sur l'exaucement de ce vœu, un chat sauvage hurla quelque part dans les gorges tourmentées qui entaillaient les collines, à ceci près que la puissance d'un tel cri évoquait plutôt un lion rugissant au fin fond d'une savane africaine. Eddie accéléra sa course, imprimant une vitesse accrue au véhicule vide qu'il poussait devant lui. Lamentation lugubre et ténue, le vent se mit bientôt à bruire dans les rayons des roues avant qui tournaient sur elles-mêmes.